Culture d'Islam par Abdennour Bidar. France Culture, Culture d'Islam, dimanche après-midi. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un auteur méconnu, un auteur du XVIIe siècle, qui s'appelle Qutb al-Din Ashkevari. On vous en dira un peu plus tout à l'heure. Il nous a écrit, par la voix et par la traduction de Mathieu Terrier, une histoire de la sagesse et de la philosophie chiite. Instrumentale de Other Özel, le tambour, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un instrument à cordes. Bonjour.
Bonjour Abdennour Bidar.
Bienvenue dans Culture d'Islam.
Merci de votre invitation.
Alors je vous reçois aujourd'hui pour un très 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 gros livre.
Il est assez gros.
Voilà, qui est le résultat de votre travail de thèse.
Oui, de quelques 5-6 ans de travail acharné, effectivement.
Bon. Eh bien le résultat est là. Hein. Le résultat est là. Vous êtes Mathieu Terrier, vous êtes professeur de philosophie.
Oui.
Vous êtes docteur donc en islamologie et philosophie. Vous êtes arabisant et persanisant.
Oui.
C'est pas si fréquent. Hein,
La maîtrise des deux langues, effectivement, elle est nécessaire pour étudier et traduire ce livre puisqu'il est écrit dans les deux langues.
C'est un ouvrage
bilingue, diglossique, arabo-persan. Les deux langues d'ailleurs étant parfois complètement mélangées.
Oui.
Il y a des passages en persan, des passages en arabe et des passages dans un mixte.
Parce que quand vous dites qu'il est écrit dans les deux langues, alors on va dire de quoi il s'agit,
oui,
bien entendu. Avant de se précipiter sur la langue, je vous donne son titre exact, « Histoire de la sagesse et philosophie chiite », sous-titré « L'aimé des cœurs » de Qutb ad-Din Ashkevari.
Ashkevari, c'est ça.
Alors, on va parler de cet Ashkevari qui est assez méconnu.
Absolument.
Hein. Il est considéré comme un auteur mineur, a priori, et le genre de l'histoire de la sagesse est a priori
est
aussi.
Est a priori un genre mineur. Voilà,
j'espère
qu'on va en parler. On cumule les a priori.
Voilà, on cumule les a priori et on va avoir l'occasion de les dépasser, de les renverser dans le cours de cette émission. Alors, oui, écrit dans les deux langues, c'est-à-dire quand vous le dites dans le livre, ça m'a posé question. Je me suis dit, est-ce qu'il est écrit en arabe? Et est-ce qu'à certains moments, pour citer par exemple, il cite en persan, ou alors est-ce qu'il fait l'inverse? Comment ça se passe? Comment ça se distribue
son écriture? Les citations sont aussi bien en arabe qu'en persan, puisqu'en fait, il y a quand même beaucoup de citations dans le livre, hein, puisque le genre de l'histoire de la sagesse existe bien avant Ashkevari, et il reprend énormément de données, de matériaux des histoires de la sagesse antérieures, la plupart d'entre elles étant écrites en arabe. Bon, et l'arabe, comme vous le savez très bien, était la langue savante, la langue philosophique de l'islam.
Et la langue théologique.
Et la langue théologique, bien évidemment. La langue du Coran, la langue du hadith des imams chiites aussi, qui sont très présents dans le livre. Donc toutes les citations des histoires de la sagesse antérieure et des imams et du Coran et de la philosophie, de la falsafa, comme par exemple Ibn Sina, Avicenne, sont en arabe. Et puis il y a des citations également de philosophes plus récents en persan et beaucoup de citations de poésie mystique persane. Quant aux interventions de l'auteur lui-même, elles sont tantôt en arabe, tantôt en persan, selon une alternance dont je ne connais pas bien les raisons, mais apparemment c'était un auteur qui jonglait lui-même entre les deux langues.
De la part d'un auteur qui est pétri d'une culture classique qu'il puise à diverses sources et qui est véritablement pléthorique, immense, impressionnante.
Ah oui,
on va avoir l'occasion d'en parler, c'est ce qui donne d'ailleurs sa matière même au livre, qui est une histoire de la sagesse. Alors, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce genre de l'histoire de la sagesse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on considère à ce moment-là comme une histoire de la sagesse, d'une part ? Et puis, commençons par le commencement, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. À quelle époque est-ce que ça se passe ?
Alors, le genre de l'histoire de la sagesse, il apparaît, très tôt en islam, il apparaît en même temps que le mouvement de traduction, cet immense mouvement de traduction de textes d'origine grecque, mais souvent passé par le syriaque, en arabe. Hein, donc, grosso modo, 9e siècle. Donc, en même temps que les traductions de la philosophie, mais aussi de la médecine et de la science grecque, on voit apparaître les premiers ouvrages de doxographie, on rapporte les opinions des sages anciens, on rapporte des bribes de leur vie, des hauts faits, des actions éclatantes de ces sages. Et donc ça commence dès le début du mouvement de traduction. D'ailleurs, le premier auteur d'une histoire de la sagesse est aussi le plus grand traducteur de ces textes grecs passant par le syriaque, qui s'appelait Huneyn ibn Ishaq, et il n'était pas musulman, il était chrétien. Le genre de l'histoire de la sagesse continue. Alors, il a des formes diverses. Hein. J'ai rassemblé dans un même genre des ouvrages qui, en fait, jouent sur des registres divers, donc l'anthologie, la chronologie, la doxographie, parfois l'hérésiographie, c'est-à-dire le catalogue des hérésies. Donc, des ouvrages qui ont des perspectives diverses et qui jouent sur des registres différents.
Vous nous parlez même de gnomologie.
Voilà, gnomologie, parfois. C'est-à-dire l'anthologie des maximes de sagesse.
Le recueil de sentences.
Voilà, le recueil de maximes sapientiales, de sentences. Voilà, la littérature des sentences.
Attendez, juste une précision, est à quelle époque donc avec Ashkevari ?
Alors avec Ashkevari, on est au XVIIe siècle. Donc là, on est à l'aube de la modernité, mais le genre commence 8 siècles avant.
Voilà, vous aviez dit à peu près au IXe siècle.
Voilà, le genre commence à peu près au
IXe. Et il n'est probablement pas indifférent que ce genre, c'est-à-dire cette idée de collectionner les sagesses selon un certain ordre et selon certaines finalités, eh bien, soit contemporain d'un important travail de traduction qui met à disposition justement des sagesses de différentes provenance.
Oui, tout à fait. Et le genre de l'histoire de la sagesse va accompagner, c'est un peu une histoire parallèle à celle de la philosophie en islam. Hein. C'est-à-dire que ces histoires de la sagesse, recueillent des matériaux de la sagesse pré-islamique et principalement de la sagesse grecque, irriguent les ouvrages des philosophes eux-mêmes, qui citent des maximes des Grecs d'après ces ouvrages d'histoire de la sagesse. Et puis les ouvrages d'histoire de la sagesse sont aussi une espèce de caisse de résonance de la philosophie. Avec l'évolution de la philosophie en islam, on voit aussi ce genre évoluer. Et entrer un peu en hibernation avec la philosophie et renaître avec la philosophie en islam, et donc renaître au XVIIe siècle en Iran, parce que là, il y a une véritable renaissance de la philosophie en islam à l'époque, hein, dans l'Iran chiite, safavide. Et donc cet ouvrage est la renaissance du genre d'histoire de la sagesse consécutive à la renaissance de la philosophie elle-même.
Alors on est dans le contexte, vous venez de le dire, de l'Iran safavide, et on va voir quel rapport difficile, Ashkevari entretient avec cette autorité safavide, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan du magistère intellectuel. Encore une fois, en relation directe avec ce que vous venez de dire, ces histoires de la sagesse, ce genre histoire de la sagesse, offrent un lieu de confluence à un certain nombre, justement, de sagesse, d'origines diverses. Et ça va être un des grands enjeux du livre d'Achkevari que, justement, de ne pas offrir simplement ce qu'on pourrait appeler une espèce de compilation plate et chronologique, qui serait un compte-rendu en pure succession de ce que l'un a dit, ce que l'autre a dit, etc. Mais à travers un certain nombre de thèmes et puis à travers une certaine organisation générale, que de faire émerger quelque chose qui est de l'ordre justement d'un certain nombre de convergences, de confluences, de résonances. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui n'est pas seulement historique, de rappel de quelque chose, mais philosophique.
Effectivement, d'établir, vous l'avez dit, une confluence, une résonance. Bon, je parle de symphonie dans le livre. On peut parler d'harmonie et d'harmonisation, au sens même pythagoricien du terme. Effectivement, d'idées qui sont d'origine diverse et qui sont bien souvent taxées d'hétérodoxie. Donc c'est aussi un genre qui... par son caractère peut-être justement faussement mineur et apparemment inoffensif, permet de recueillir et de donner libre voix à des idées tout à fait hétérodoxes, dont effectivement l'auteur s'emploie à établir, mais pas de manière démonstrative, l'harmonie ou la cohérence.
Et alors, une particularité de cette histoire de la sagesse, c'est qu'elle est écrite à partir d'Adam.
Oui.
Jusqu'à soi-même.
Voilà, c'est ça. Alors,
Achkevari se fait le point d'arrivée de cette histoire de la sagesse.
Oui, alors, en quelque sorte. Alors, en fait, là, on parle de tout l'ouvrage, donc dont la traduction littérale est l'aimé des cœurs en arabe, c'est le Mahboub al-Qulub, qui est en trois volets. Le livre que j'ai écrit et la présentation, la traduction et le commentaire du premier volet, donc depuis Adam jusqu'à l'arrivée de l'islam. Et effectivement, il y a deux volets suivants, un deuxième consacré à tous les savants, traducteurs, médecins, etc. de la période islamique, et le troisième spécifiquement aux imams chiites et aux autorités intellectuelles et spirituelles du chiisme. Alors Achkevari donne son autobiographie en annexe, donc il ne se pose pas vraiment comme un sage, mais plutôt comme un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui aspire à la sagesse mais qui ne la possède pas. Et le dernier sage, à proprement parler, en tout cas du point de vue d'Achkevari, de cette histoire, est son propre maître, qui était Mir Damad, et qui est effectivement un grand philosophe de ce XVIIe siècle iranien.
Vous discutez beaucoup dans le livre de la relation sur laquelle il y a eu beaucoup de littérature entre Mir Damad et lui, mais...
Oui, le peu de littérature existant sur Achkevari en fait systématiquement
l'élève,
le disciple à l'ombre de son maître Mir Damad. Bon, je pense que la réalité est plus complexe.
Voilà, donc vous essayez de la débroussailler un peu, et vous dites d'ailleurs plus précisément que dans cette autobiographie donc qu'il donne en annexe, il se considère lui-même, et on va y revenir parce que à mes yeux c'est un thème vraiment important du livre, comme le dernier philosophe lui-même, c'est-à-dire comme celui qui est encore capable de porter une certaine idée de la philosophie.
C'est ça.
Il y a un très gros enjeu du livre que de montrer que il y a des conceptions de la philosophie qui, selon Achkevari, se sont affrontées et certaines ont été perdues de vue, raison pour laquelle il va les chercher où il croit pouvoir les trouver. La question est ouverte chez, entre autres, les anciens Grecs. On parlera de Platon tout à l'heure. Alors, lorsqu'il commence cette autobiographie, on va commencer par là. Lorsqu'il commence cette autobiographie, il a un ton d'emblée qui est très critique, qui est très sévère, qui lui vaut un moment dans votre livre le titre de misanthrope.
Oui.
C'est-à-dire qu'il a fini par concevoir beaucoup de rancœur contre tout un ensemble de comportements et de conduites, notamment du côté des faux savants, de ce que vous appelez des soufis antinomiques. Il faudra vraiment nous expliquer ce que c'est.
D'accord.
Antinomistes.
Oui.
Enfin bref, on n'en est pas là. Sa première critique s'adresse à tous ceux qui revendiquent une lignée illustre, une hérédité illustre, qui les dispenserait de cultiver eux-mêmes la vertu. Alors, par exemple, il cite ce verset du prophète. Le prophète dit « Aux tribus des Quraysh, la noblesse de l'homme, c'est sa religion, sa mâle vertu, c'est son caractère, son origine, son origine, c'est son intelligence. Oui. Et un autre hadith du prophète dit « Aucun de ceux-là, parlant de ceux qui revendiquent une noblesse, aucun de ceux-là n'a de supériorité réelle, sinon par la piété envers Dieu. »
C'est ça.
Et on comprend tout de suite qu'Ashkevari est engagé dans une lutte contre tous les faux prestiges de
c'est
son
ça,
temps.
C'est ça, tout à fait. Oui, oui, hein? Contre tous les faux prestiges, contre tous les faux titres. Alors, le passage auquel vous faites référence, bon, renvoie à l'histoire des tout débuts de l'islam et à l'histoire du chiisme, puisqu'en fait, il est question de Salman le Perse, qui, justement, était considéré comme de basse origine par les Quraysh, alors qu'il est valorisé, justement, par les chiites, comme étant un membre adoptif de la famille du prophète. Donc ça, c'est le point de départ. Mais effectivement, Ashkevari s'en prend à tous les faux prestiges, à tous les faux titres. Ceux qui se prétendent des faux qaha, c'est-à-dire des savants religieux, des jurisconsultes, mais qui ignorent ou qui refusent la philosophie, les sciences rationnelles et la mystique. Il s'en prend aux faux philosophes qui auraient oublié la vocation éthique, existentielle et spirituelle de la philosophie. Et il s'en prend effectivement aux faux soufis qui font du soufisme une espèce de déguisement, une espèce de folklore et qui prennent prétexte de leurs états spirituels pour s'exempter du respect des lois religieuses. Donc c'est ce qui s'appelle l'antinomisme. Et donc il s'en prend à tous ces personnages qui l'entourent et qu'il considère tous comme étant faux. Et son histoire de la sagesse est justement un moyen pour lui de retrouver les vrais philosophes, les vrais mystiques, les vrais chiites aussi.
Tout à fait, de rétablir.
De rétablir la vérité de tous ces.
La vérité à partir d'un exemple de conduite, d'un exemple de vertu. Par exemple, juste après avoir cité ces hadiths du prophète Mohammed, il dit. Alors, il cite un poète, sans dire lequel, peut-être un poète persan.
Mais... Oui, ça peut être un de ses contemporains. Il y en a pas mal qui ont été oubliés.
Donc, deux vers simples. L'homme est son savoir-vivre, EST. Hein, l'homme
oui, oui.
est son savoir-vivre et non la lignée de ses pères. Le preux dit « me voici » et non « voici mon père ».
Voilà.
Hein, voilà. Donc là, on est d'emblée dans un projet, un élément du projet d'Ashkevari qui est de dénoncer ce qu'il faut bien appeler les impostures majeures
tout à fait.
De son temps sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, sur le plan mystique.
Voilà, tout à fait. Et c'est d'autant plus important que tout le chiisme, bon, Ashkevari est un auteur chiite, tout le chiisme se construit sur historiquement sur une dénonciation de l'imposture, qui est l'imposture des premiers califes, l'imposture de tous ceux qui ont pris la place de l'imam Ali
qui
et de ses descendants.
Ali,
voilà, qui aurait dû revenir
à Ali, succession
voilà, la succession du prophète qui devait revenir à Ali et à ses descendants. Donc tout le chiisme se construit sur une dénonciation de l'imposture. Or, là, on est en Iran au XVIIe siècle, dans un État qui, depuis le début du XVIe siècle, est officiellement chiite. Donc, normalement, la justice est censée être rétablie, disons. La vérité est censée être rétablie. Et il dénonce encore les imposteurs. Donc, ça veut dire que, de son point de vue, dans cet Iran safavide chiite, gouverné d'ailleurs par une lignée de rois, par une dynastie, donc héréditaire. Il considère que l'imposture est toujours aussi présente aussi et dominante,
voire généralisée,
absolument généralisée.
Et d'ailleurs,
on est dans un temps d'imposture.
Voilà. Et d'ailleurs, on s'aperçoit en lisant cette autobiographie que il s'inscrit dans une histoire familiale aussi.
Oui.
Puisque son père était le cheikh al-islam de la ville,
donc
la principale autorité religieuse,
ouais.
Et que le père, on s'aperçoit donc que le père était lui-même en butte à tout un ensemble de critiques de littéralistes, de rigoristes.
C'est ça, voilà.
Aujourd'hui, on dirait des intégristes.
Oui, oui, oui.
Je rappelle donc à nos auditeurs qu'on est au XVIIe siècle, on n'est pas en train de parler du présent.
On est en Iran.
On est en Iran, donc je suis avec Mathieu Terrier pour son histoire de la sagesse et philosophie chiite. Et donc le père de notre héros, de Ashkevari, était lui-même la cible de critiques, de rigoristes chiites. Pourquoi ? Parce que, dit Ashkevari, je le cite, « parfois, pour aiguiser sa pensée, son père se mêlait aux bouffons et aux plaisantins.
C'est ça, voilà.
Donc son père aimait rire avec ceux qui font profession de faire rire et donc cultiver probablement l'autodérision et puis l'esprit critique qui passe par l'usage du rire qui tourne en dérision justement des formalismes, des ridicules, hein, qui peuvent être des ridicules religieux, entre autres. Et alors, il s'exposait ce faisant à, dit Ashkevari, certains exotéristes bornés. Alors, il y a une belle expression en arabe, c'est Ashab el-Kishr.
C'est ça, Ashab el-Kishr.
C'est-à-dire vraiment les compagnons de l'écorce.
De l'écorce, de la coquille.
Et la coque, la notion de coque est très importante.
Très importante dans la philosophie islamique, le couple conceptuel de la coque et du fruit.
Et du noyau. Ça, c'est une distinction soufie devenue classique. Et il y a cette héritage chez lui du soufisme qui distingue le littéralisme qui s'occupe de la coque, c'est-à-dire de l'apparence, du vêtement, de l'extérieur, de la forme, etc. Et la perspective de l'approfondissement spirituel, du cheminement spirituel qui essaie d'aller au-delà de l'apparence, toujours dans une quête ou une enquête sur le vrai, et qui va du côté du noyau ou du fruit, comme vous le disiez. Et donc, hélas, donc, pour Ashkevari et son père, certains exotéristes bornés en vinrent à l'accuser de légèreté morale et d'indécence, ignorant, dit Ashkevari, c'est la leçon qu'il en tire, ignorant que cela n'affecte pas la respectabilité, la position et la considération, comme le déclara en persan quelque homme doué de clairvoyance, faire le petit, alors il cite quelque chose qui est très savoureux, faire le petit n'est pas petit pour un grand, cette petitesse est une perfection, sûrement, quand le père parle le langage de l'enfant, qui croirait que le père est devenu enfant ?
Voilà.
Donc il remet à sa place ses critiques en disant « Mon père, dont vous dites qu'il s'abaisse... »
Savait faire preuve, justement,
manifeste au contraire une vertu,
Et de profondeur,
D'humilité, et puis de capacité aussi à être avec chacun comme chacun est. Sans afficher partout la même attitude qui serait une attitude de supériorité.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que le père d'Ashkevari, justement, était actif à une période où à la fois la royauté et le clergé en place étaient plus conciliants ou plus tolérants à l'égard de la philosophie, à l'égard du soufisme. Et donc le père a été déjà dénoncé, critiqué, mais il est resté en place et il rien n'arrivait de très grave apparemment. À l'époque où Ashkevari, lui, écrit, les choses vont beaucoup plus mal. On est dans une période de réaction anti-intellectuelle et anti-spirituelle considérable. Et là, les soufis sont persécutés, les philosophes sont censurés ou même également enfermés. Et les chiites ésotériques, adeptes de la spiritualité chiite originelle, sont également réprimés ou étouffés. Donc le contexte d'Ashkevari... quand il écrit cette œuvre, et il l'écrit apparemment à la fin de sa vie, et il semble ne pas chercher à la publier, disons, de son vivant, son contexte est encore beaucoup plus défavorable que celui de son père dont il parle ici.
Voilà, donc c'est vraiment un contexte de durcissement
de durcissement
politique et religieux qui rend probablement difficile la possibilité d'une parole libre comme celle-ci et d'une parole critique comme celle-ci. Donc vous dites qu'il n'a pas cherché à publier de son vivant ?
Il ne semble pas, parce qu'il semble qu'il est encore en train d'écrire ce livre et de rajouter des gloses, donc des notes dans les marges du manuscrit, tout à fait à la fin de sa vie. Donc il ne semble pas avoir vraiment voulu... Et du reste, de son vivant, c'est pour ça aussi qu'il est il est resté si obscur, c'est que de son vivant, il est très méconnu. Les savants parmi ses contemporains n'en parlent pas. Et il faut dire que l'Ahedjan, où il exerçait cette fonction de Cheikh al-Islam, donc est à la fois jurisconsulte, chef religieux, la région de l'Ahedjan est dans le nord de l'Iran, proche de la mer Caspienne, c'est la région du Gilan, très excentrée, puisque la capitale quand même à l'époque était Isfahan, donc c'est quand même très loin, et c'est une région qui était traditionnellement un lieu de rébellion, de contestation, enfin un lieu où l'ordre étatique du royaume safavide avait du mal à s'imposer.
Oui. Au passage, vous venez de le mentionner, au passage, et vous le thématisez beaucoup, la question de la, de la relation, voire de l'appartenance d'Ashkevari oui. à la fameuse école d'Ispahan. Hein, mais
oui.
Ça, je laisse nos, ouais. je laisse nos auditeurs le découvrir en lisant le livre. On peut pas aborder tous oui, les oui. sujets de ce qui est, je le rappelle, au départ un travail de thèse, hein, cette histoire de la sagesse et philosophie chiite. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était aux éditions du Cerf. Hein,
je l'ai pas dit. C'est aux éditions du Cerf.
C'est aux éditions du Cerf.
Dans la collection Islam Nouvelles Approches.
Voilà,
De Mohamed Ali Amir Mouezi.
Très bien, très belle collection et on salue Mohamed Ali Amir Mouezi avec beaucoup d'amitié. Alors, on parlait de sa position officielle, parce qu'il récupère la charge de Cheikh el-Islam de son père.
Pour son grand malheur.
Voilà, alors on va en parler parce que, d'abord, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose qui risque, le fait d'écrire cette histoire de la sagesse, de le mettre en porte-à-faux et en grande difficulté par rapport à une fonction officielle de dignitaire et de représentant de la loi religieuse, de l'orthodoxie même religieuse. Donc on comprend qu'il est dans une situation personnelle qui est difficile. Qui l'oblige peut-être à garder discrète, voire secrète, un certain nombre de considérations.
Oui.
Dans une lignée, je dirais, de culture du secret qui est aussi familiale.
Oui, qui est familiale et qui est également religieuse, puisque c'est au cœur du schisme, hein, la dissimulation pieuse. Et
alors, il y a la dissimulation pieuse, il y a aussi, au-delà même du schisme, cet invariant des cultures ésotériques que de considérer qu'il y a des choses qui demandent à être réservées à des
initiés. Voilà, spirituellement aptes à les recevoir.
C'est ça, avec cette idée d'une pédagogie initiatique et d'une progression initiatique qui implique progressivement seulement à l'aspirant, aux disciples qui cheminent, soit révélé ou offert un certain nombre de choses nouvelles, d'aperçus nouveaux sur la sagesse. Et en ce sens-là aussi, hein, il est véritablement le fils d'une longue lignée. À un moment donné, vous citez le Sayyid Ali, qui est, si j'ai bien compris, le père de la mère de son père. Enfin,
oui, il y a toute une lignée, il y a toute une lignée familiale, puisqu'en fait, il est Ashkevari et d'origine, d'origine iranienne d'un côté, avec effectivement une lignée mystique, et de l'autre côté, d'origine yéménite. Alors, ça, c'est particulier. Il faut peut-être préciser que, c'est un fait historique important qu'au début du XVIe siècle, quand l'Iran devient officiellement chiite, bon, l'Iran devient chiite par la décision prise ex cathedra du tout nouveau shah, du tout nouveau roi Ismaïl, qui est un adolescent illuminé, et qui décrète que l'Iran va être chiite duodécime, hein, donc le chiisme des 12 imams.
12 imams avec toute la théorie de l'occultation.
Voilà, avec toute la théorie de l'occultation, etc. Enfin, dont on reparlera si besoin. Et donc, au cours des décennies suivant cette grande proclamation du shah Ismaïl, l'État safavide iranien fait venir des foyers, parce que l'Iran à l'époque était quand même majoritairement sunnite, et il n'y avait pas de texte, les textes canoniques chiites étaient absents, donc on a fait venir beaucoup de savants chiites, des foyers du chiisme qui étaient dans en terre arabe, donc d'Irak, du sud du Liban, de Bahreïn, et puis donc dans le cas de l'aïeul, du grand aïeul d'Ashkevari, du Yémen.
Alors, une part vraiment importante du travail d'Ashkevari va consister en une critique en règle. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, un règlement de compte, un critique en règle de l'hypocrisie des savants de son temps. Alors, il dit par exemple, bon là, on a vraiment dans le livre que l'embarras du choix, hein, parce que c'est un thème récurrent. On a l'impression même parfois que tout est prétexte à revenir inlassablement sur cette critique. Alors, il dit par exemple que le savant de son temps, typiquement, a un but qui est de tenir les masses en bride.
C'est ça.
Hein, tenir les masses en bride, et pour cela, il vit sur un pur paraître. Il paraît pieux, il paraît savant, etc. Alors qu'en réalité, voilà ce que dit Ashkevari, ce faux savant, à un moment même il emploie l'expression le savant du mal.
Oui, il y a les guides, les guides qui mènent en enfer.
Ce faux savant, je cite Ashkevari, adopte le savoir comme un expédient pour accumuler la fortune, se vanter de son prestige, s'enfler du nombre de ses suivants. Par son savoir, il saisit toutes les occasions d'arranger ses affaires dans cette vie. Et pourtant, il est intimement convaincu d'avoir une place auprès de Dieu, du fait d'être reconnu parmi les vrais savants, décrit par leurs marques distinctives que sont le costume et le langage, malgré, et c'est là qu'on voit la sévérité du ton d'Achkébari, malgré, dit-il, son avidité de chien pour la vie d'ici-bas, dans son attitude extérieure comme dans son fort intérieur. Puis après, il en ajoute encore une couche. Il dit que c'est un véritable imposteur qui compare au fameux Dajjal.
Voilà, vraiment, on a vraiment l'adversaire.
Oui, oui. L'adversaire. Donc son but est d'égarer un tel savant, savant entre mille guillemets, tout en détournant les gens de cette vie par son langage et son discours, les invite à elle par ses actions. C'est pourquoi cet homme abusé corrompt davantage les gens par ses actes qu'il ne les corrige par ses discours. Enfin, vraiment, il est d'une sévérité extrême.
Oui, ce qu'il ne supporte pas, c'est effectivement le décalage, le désaccord, la contradiction entre les paroles, les leçons de morale, de religion et de science et la pratique et les états spirituels qui seraient donc en contradiction avec le langage. Donc, il y a une exigence chez lui d'authenticité, il y a une colère, vous l'avez dit, assez furieuse contre toutes les formes d'hypocrisie qu'il décèle effectivement chez ses contemporains. Alors il faut dire aussi que ce thème, finalement, d'opposer ce thème très dualiste, d'opposer les vrais et les faux, les vrais savants, les faux savants, les vrais guides, les faux guides, est une thématique très, très ancienne dans le chiisme. Là aussi, c'est tout à fait constitutif de cette religion ou de ce courant religieux. Ce qui est remarquable, c'est que pour lui, c'est encore tout à fait d'actualité à son époque en Iran, alors qu'encore une fois, on est censé être dans un état chiite qui a rétabli la justice et la vérité. Or, lui voit toujours autant de contradictions et d'impostures chez ses contemporains. C'est pour ça qu'il revient aux anciens. C'est pour ça qu'il revient aux anciens philosophes, dont il loue justement la cohérence du comportement et des paroles.
Alors, c'est ce qui crée une réelle empathie à son égard, me semble-t-il, de la part du lecteur, parce qu'on sent un homme par-delà les siècles, et c'est toujours intéressant d'avoir le sentiment comme ça de rencontrer une personne par-delà les siècles, on sent quelqu'un qui est animé par une très forte exigence de sincérité, de droiture, d'honnêteté, de cohérence de l'existence. Ouais. Et puis il va être à cet égard justement plus que quelqu'un qui ne ferait que restituer des paroles de sagesse ancienne. Il va véritablement dans ce livre, enfin me semble-t-il, mais c'est vous le spécialiste, être la mauvaise conscience de son temps, d'une certaine façon. Vous dites à cet égard la chose suivante, vous dites « Le jugement qu'il exprime sur ses contemporains donne à penser qu'il se considérait comme l'ultime dépositaire d'un trésor de sagesse, le seul ami sincère du savoir parmi les hypocrites, soit, c'est-à-dire, le dernier philosophe au sens strict, celui qui cherche la sagesse, qui recherche la sagesse, mais ne la possède pas.
Voilà.
Celui qui cherche à devenir sage parce qu'il sait qu'il ne l'est pas. Ainsi, son autoportrait est-il celui d'un penseur solitaire, détaché des relations avec les fils de son temps et œuvrant pour un temps autre et pour échapper à son temps.
Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il commence son introduction effectivement en dénonçant toutes les hypocrisies et tous les travers de ses contemporains, et il explique que la raison pour laquelle il a composé son histoire de la sagesse était justement pour substituer des vrais sages, des vrais savants, des vrais soufis à tous les faux qui l'entourent. Donc rendre une présence aux absents, aux hommes du passé, pour s'absenter lui-même de son présent et effectivement retrouver ces sages ou se placer du moins dans leur pas, dans un temps autre.
Alors là, me semble-t-il, on aborde un thème qui m'a semblé véritablement fondamental dans votre ouvrage. C'est-à-dire que, ce faisant, Achkébari ne se contente pas d'être ou d'entrer dans une démarche critique, si sévère soit-elle. Il fait quelque chose de plus, qui est justement, pour échapper à son temps, de s'installer dans un autre temps. Et on comprend la vertu, au sens, grec, justement, du terme, c'est-à-dire la virtus, l'efficace, la puissance de cette stratégie, parce que en convoquant les sages des temps antérieurs, eh bien, il crée entre eux et lui les conditions spirituelles d'une compagnie.
Tout à fait.
Il crée un lieu, il ouvre un espace, il ouvre un temps dans lequel le temps et l'espace habituel ou ordinaire se trouvent en quelque sorte abolis.
Absolument.
Et il y a donc là quelque chose qui se passe qu'il faut décrire, me semble-t-il,
oui,
hein, qu'il faut analyser.
Oui, oui, c'est de sa part. Bon, la composition de cette histoire de la sagesse, je pense qu'elle a deux enjeux qui peuvent sembler éloignés. Il y a un enjeu universel et un enjeu très personnel.
Oui. Alors
justement, l'enjeu très personnel, c'est cet exercice spirituel. La rédaction de cette histoire de la sagesse est vraiment un exercice spirituel pour justement dépasser son propre temps et en même temps avoir une attitude cohérente avec sa pensée, dépasser son propre temps et effectivement créer les conditions de cette compagnie avec les sages anciens. Et puis l'enjeu universel, c'est de constituer une espèce d'arche de Noé pour sauver tout ce qui peut l'être encore à l'époque de la philosophie, du chiisme originel, le chiisme considéré comme authentique par l'auteur et pas seulement par lui, et du soufisme également originel, également considéré comme authentique. Alors est-ce qu'il a réussi ou pas? Alors, pour lui-même, bon, évidemment, c'est difficile à dire, mais enfin, en tout cas, l'effort qu'il a produit est conséquent. On peut penser que cet exercice spirituel a été effectivement salutaire pour lui. Et puis, est-ce que, d'un point de vue plus universel, est-ce que ça a eu une efficacité? Je pense que oui, parce que si on voit encore jusqu'à aujourd'hui, en Iran et dans le monde chiite, quand même, la conservation de la spiritualité originelle du chiisme, la place de la philosophie encore aujourd'hui en Iran, et l'existence du soufisme aussi, ben ça a pas mal réussi. Et finalement, son ambition qui pouvait paraître folle ne l'était pas tant que ça.
Alors, vous dites deux enjeux. Hein, donc dans cette histoire de la sagesse et philosophie chiite, je rappelle qu'on est au XVIIe siècle avec Qutb al-Din Ashkevari. Le premier enjeu qui est l'enjeu de la transmission des héritages,
oui,
y compris les plus anciens,
oui,
et à partir des plus anciens, et des plus divers aussi,
oui,
hein, c'est-à-dire qu'un grand enjeu de votre ouvrage, c'est de montrer qu'il y a chez lui une confluence entre la sagesse grecque, entre la sagesse proprement prophétique,
oui,
imamite,
prophétique,
donc islamique, en particulier chiite,
oui,
la sagesse aussi soufi. Hein,
oui.
Il est capable de citer des soufis fort anciens,
ah, oui,
il va citer Junaïd,
oui, oui, tout à fait, et il leur consacre des notices personnalisées, voilà, dans le deuxième volet où il en fait vraiment l'apologie. Hein.
Voilà, donc ça c'est le premier enjeu, la transmission de l'héritage. Mais vraiment, je vous avoue que c'est le second sur lequel je vous dirigeais tout à l'heure qui m'a beaucoup interpellé, cette façon qu'il a de vouloir échapper à son temps, et je vous cite, pour créer son temps propre, c'est-à-dire pour essayer de créer avec les sages qu'il mobilise et qu'il convoque une sorte, je disais tout à l'heure, une compagnie, ou on pourrait appeler ça une communauté imaginaire de,
oui,
sagesse.
Oui, c'est ça, c'est l'amitié, c'est la communauté.
Voilà. Une sorte
des
zaouïa
de
sagesse.
Oui, une sorte de zaouïa, hein, effectivement, son livre est une sorte de zaouïa,
voilà,
d'ailleurs.
De confrérie imaginaire qui va lui servir de support à ce que vous avez appelé un exercice spirituel. C'est-à-dire,
oui,
qu'on comprend qu'il se met véritablement dans la compagnie de ces sages pour, au fur et à mesure qu'il les cite, non pas simplement compiler ce qu'ils ont dit, mais méditer, se donner une opportunité de les méditer,
oui, oui, tout à fait,
de les faire aussi dialoguer entre,
oui,
eux.
Oui, 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 oui.
Et on pense très fortement, et on y pense d'autant plus que chez vous ça devient explicite, j'ai été frappé par la façon dont vous le citez régulièrement, on pense à Pierre Hadot,
oui,
hein, c'est-à-dire à cet immense spécialiste de la philosophie antique qui nous a montré à quel point la philosophie originelle du côté occidental, mm-hmm, du côté grec, mm-hmm, était un exercice spirituel, c'est-à-dire un art de vivre. Et on a vraiment l'impression d'assister à ça du côté d'Ashkevari,
oui,
c'est-à-dire que c'est pas seulement un intellectuel qui s'est piqué d'amour pour les paroles de sagesse auxquelles il a accès et qui s'amuse à les compiler.
Ah,
il a véritablement, à travers cet exercice et ce registre de l'écriture de l'histoire de la sagesse, inventé ou réinventé un exercice spirituel, un type d'exercice spirituel.
Ah oui, tout
J'ai
à
trouvé
fait.
Ça très frappant.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, les deux enjeux sont complètement liés, parce que ce qu'il reproche à ses contemporains, c'est d'avoir un discours et de ne pas avoir le mode de vie correspondant. Et pour lui, la vérité, aussi bien de la philosophie que la vérité du chiisme et que la vérité du soufisme, puisque ce sont les trois courants spirituels qu'il cherche à concilier, hein, dans toute son dans tout son ouvrage. Donc pour lui, la vérité de ces trois courants, c'est justement la cohérence et l'indissociabilité de la pensée, du discours et du choix de vie, du mode de vie.
Hein. Tout à fait.
Donc effectivement, son rappel de tous les sages antérieurs, de toutes les sagesses antérieures, à ce sens-là, a le sens à la fois de rappeler ce qu'est pour lui la vérité de ses courants, de faire la leçon à ses contemporains, et de se donner à lui-même tout en donnant aux autres des exemples de cette cohérence. Et en même temps, justement, de sauver la véritable nature du chiisme, du soufisme et de la philosophie, en rappelant avec autant d'insistance le caractère indissociable du mode de vie et du discours.
À cet égard, il transmet véritablement une culture, au sens, je dirais, le plus puissant, le plus complet du terme, c'est-à-dire pas seulement une culture générale, c'est-à-dire une culture intellectuelle, mais il offre les conditions d'une mise en culture de soi.
Oui, tout à fait, voilà, c'est une culture de soi. C'est là, on rejoint aussi un thème de Pierre Hadot, de Michel Foucault, sur la philosophie antique comme exercice spirituel,
comme souci de soi,
comme culture de soi.
Épiméléia et autour, rappelez Foucault, je me souviens de ça dans son Histoire de la sexualité,
oui,
c'est le tome 3.
Oui.
Mais alors, avant peut-être d'approfondir un peu ce sujet-là, de la mise en pratique du savoir et d'une certaine conception donc de la philosophie, parce que je voudrais qu'on en vienne là, insistons encore un petit peu sur le fait que la manière dont Ashkevari écrit son Histoire de la sagesse pour entrer dans la compagnie des sages de toutes les époques qui l'ont précédé est une mise en exercice de ce que Suravardi et son école appelaient le Alam al-Mithal.
Alam al-Mithal, oui, le monde imaginal ou monde iconique.
Henri Corbin disait « monde imaginal ». Vous dites dans le livre plutôt « le monde de l'icône ».
Oui, je préfère « le monde de l'icône », mais la traduction vient aussi d'Henri Corbin, d'ailleurs, qui ne l'a pas tellement employé, mais enfin, il l'a inventé aussi.
Alors, expliquez-nous ça, parce que c'est une installation dans un lieu, si je dis imaginaire,
imaginaire, ça ne va pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que la traduction par imaginal, Henri Corbin insistait beaucoup sur la différence entre imaginal et imaginaire, reste que, les deux termes sont associés. Oui, c'est un monde intermédiaire. Alors déjà, on est dans une structure platonicienne, hein, donc il y a le monde intelligible, le monde des idées et le monde sensible. Et effectivement, depuis Suravardi, au moins, parce qu'on voit déjà ça arriver chez Avicenne. Hein. Les philosophes en islam ont ressenti le besoin d'intercaler entre le monde des idées pures et le monde sensible un intermonde, un monde intermédiaire où les idées prennent des formes sensibles et où les êtres sensibles se spiritualisent.
Donc ce qui permet, en quelque sorte, aux êtres du monde sensible que nous sommes de prendre pied.
Voilà.
Hein, c'est une première marche de prendre pied vers l'intelligible, parce que comme le disait Aristote dans son traité de l'âme, l'homme commence toujours par penser à travers des images,
images. Ça vient aussi effectivement du traité de l'âme d'Aristote et effectivement du rôle absolument crucial de l'imagination dans ce schéma, dans la noétique, la théorie de l'intellection chez Aristote. Oui, tout à fait. C'est un monde qui est nécessaire. Il a aussi ce monde de l'icône une fonction eschatologique, hein, puisque c'est aussi le monde de l'isthme du barzakh et le monde de la tombe. Hein. Enfin, c'est le monde de la résurrection mineure, c'est-à-dire entre l'entrée dans la tombe et la résurrection majeure. L'âme aura une forme imaginale ou iconique et connaîtra des tourments ou des récompenses d'ordre imaginal, c'est-à-dire pas réellement sensible et pas non plus purement intellectuel.
Alors, ce qu'il s'agit de bien comprendre pour nos auditeurs, c'est que ce monde, donc ce Alam al-Mithal, ce monde imaginal n'est justement pas, on l'a précisé, le monde de l'imaginaire, c'est-à-dire que pour nos auteurs, c'est un monde qui désigne un véritable lieu, qui a une réalité, mais une réalité différente de la réalité dans laquelle nous sommes ici, dans le sensible, c'est-à-dire que c'est un monde qui a son espace propre, qui a son temps propre, qui a son histoire propre.
Oui.
Corbin insistait beaucoup là-dessus, sur ce qu'il appelait l'historialité.
Oui.
Et là, en l'occurrence, on voit bien que dans la compagnie de tous les sages qu'il convoque, Ashkevari s'installe dans ce monde imaginal, dans une sorte d'éternel présent, ou de continuité de la sagesse qui est complètement et du dialogue des sages.
Oui, c'est ça, le dialogue des sages.
Qui a sa temporalité propre.
C'est ça, il y a une transhistoricité, justement, qui fait que les imams chiites communiquent avec les sages grecs.
Et qui finalement permet, c'est la fonction d'une petite consolation psychologique, peut-être pour Kevari, qui permet de relativiser la décadence à laquelle il a affaire sur le plan extérieur.
Bah oui, absolument. Hein. Et j'ai envie de dire justement, l'existence de ce monde est d'autant plus importante que si on nie l'existence d'un niveau intermédiaire, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un monde matériel sensible à administrer, à gouverner, à encadrer, et une transcendance absolument inaccessible avec laquelle on ne peut pas communiquer. Bon, on voit à quel type de régime politico-religieux ça donne lieu aujourd'hui. Donc justement, ce monde imaginal, iconique comme on voudra, est absolument capital. Et c'est le monde de l'histoire sainte, c'est-à-dire c'est là que se déroulent, ou se sont déroulés, enfin on est dans un éternel présent, donc c'est là que se déroulent les événements de l'histoire sainte. Il le dit à un moment, le voyage céleste du prophète Mohammed s'est déroulé dans ce monde, et par conséquent aussi un certain nombre d'épisodes de la vie des sages grecs.
Il y a là quelque chose dans la façon dont il conduit son histoire de la sagesse que je trouve particulièrement inspirant pour chacun d'entre nous, au sens où quand on a donc l'occasion de lire une histoire de la sagesse comme celle-ci, nous restitue dans la compagnie des sages du passé, mais même quand on lit un livre dans lequel on a le sentiment de trouver une inspiration de sagesse, finalement, Achkevari nous propose de considérer qu'on fait un véritable voyage, que ce n'est pas une expérience qui serait simplement une expérience intellectuelle, mais une expérience mentale au sens le plus large du terme, qui peut donner lieu, on en a parlé, à un exercice spirituel.
Oui, c'est ça. C'est
de méditation, d'intériorisation. Alors, on a beaucoup insisté sur ce thème qui est solidaire, on l'a dit, d'une certaine conception de la philosophie comme mise en pratique du savoir. Mais plus généralement, ça aussi c'est un aspect saillant, me semble-t-il, de votre travail, qui est de montrer que, et là encore, à cet égard aussi, on dépasse les a priori qu'on a sur une histoire de la sagesse, comme quelque chose qui pourrait être un peu plat, une espèce de compilation, etc. Il y a vraiment une idée de la philosophie dans son livre, et il y a vraiment une inspiration philosophique.
Oui.
C'est un livre de philosophie.
Oui,
c'est pas un livre sur les philosophes.
D'où le titre, Histoire de la sagesse et philosophie chiite. Oui, d'ailleurs, il faut dire quand même qu'il est, à mon sens, le premier usage du genre. Si le genre de l'histoire de la sagesse est réputé mineur, c'est pas non plus pour rien. C'est qu'effectivement, il y a dans les ouvrages d'histoire de la sagesse antérieure, il n'y a pas cet investissement philosophique et cet engagement personnel qu'on trouve ici. Et ce qui est même étonnant, parce que, par exemple, une des sources principales d'Achkevari est quelqu'un qui s'appelait Shahrazuri, qui était lui-même un disciple de Sohravardi dont vous avez parlé, et dont on aurait pu attendre aussi que son histoire de la sagesse soit authentiquement philosophique. Or, elle ne l'est pas. Et Achkevari est vraiment le premier, à mon sens, à faire vraiment servir l'histoire de la sagesse à la philosophie elle-même, à la fois comme exercice spirituel, vous l'avez dit, et en même temps pour rappeler ce qu'est la vraie philosophie et en quel sens elle rassemble des doctrines et des discours apparemment divergents et qui en fait coïncident.
Tout à fait, et à cet égard, il aurait des leçons, ou en tout cas il pourrait facilement entrer en discussion avec nous les modernes ou les post-modernes qui avons une certaine conception de la philosophie, bien le dire, paraît très étroite par rapport à la façon dont il l'a conduit, lui, sa philosophie. Oui. Et à cet égard, vous dites que l'une des vertus du livre d'Achkevari, c'est, je vous cite, de rappeler à la philosophie son soi profond, oublié ou pour tout dire refoulé. Et là, vous faites référence à un moment explicitement au daimon de Socrate, au démon de Socrate. Mm-hmm. Parce que ressurgissent sous sa plume des dimensions de la philosophie qui ont eu tendance au cours des siècles à se dissiper, voire à s'occulter, etc. Et notamment quatre. Vous dites que Achkevari nous rappelle, un, les racines orientales de la philosophie grecque. Par exemple, il dit quelque chose que, je suis philosophe aussi, je ne l'ai pas trouvé souvent et ça n'a jamais cessé de m'étonner. Il mentionne les voyages orientaux des philosophes grecs. Il rappelle que Platon a été en Égypte, etc. On ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est-à-dire que là, il y a une occultation qui s'est délibérée.
On
a parlé du miracle grec.
C'est ça, voilà.
Pour sauver l'idée de miracle grec, il fallait qu'il y ait une espèce de génération spontanée comme ça.
Alors là, dans le livre, on a une réfutation du miracle grec, donc il n'a jamais entendu parler du miracle grec naturellement, mais là on a vraiment une antithèse éclatante.
Deuxième dimension de la philosophie qui ressurgit ici, donc qui se défoule après avoir été refoulée, sa dimension ésotérique non rationnelle.
Oui.
Hein, c'est-à-dire la philosophie ne se réduit pas, ne même serait. Si c'est déjà énorme, à l'usage de la raison.
Absolument.
Hein, on sait bien d'ailleurs chez Platon, oui. à la fin du livre 6, Platon montre qu'il n'y a pas que la raison qui agit en philosophie. Il y a aussi ce qu'il appelait le nous,
oui. hein,
c'est-à-dire l'intellect. Sa dimension pratique est non seulement théorique, mm-hmm. donc tout ce qu'on a évoqué, la pratique de la vertu, la mise en cohérence de ses actes avec son savoir, etc. Et puis sa finalité mystique, selon ses héritages, directement soufis, puisque, dites-vous, cette finalité mystique concerne la recherche d'une unité personnelle avec le divin ou la déification de soi.
C'est ça, mais c'est aussi le tête-à-tête de Platon. Hein. La philosophie, c'est se rendre semblable au divin autant qu'il est possible.
Voilà.
Et le livre 10 de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, bon, se rendre immortel ou participer autant que possible à l'immortalité. Effectivement, il y a toute une dimension qu'on peut appeler spirituelle ou mystique, bien que ce soit des mots qui parfois je dirais, font peur aujourd'hui, dans notre milieu philosophique. Mais effectivement, il rappelle cette finalité, cette vocation spirituelle de la philosophie qui, je pense, ne faisait aucun doute pour les philosophes grecs anciens, davantage encore dans l'Antiquité tardive. Bon, c'est un néoplatonicien, on est là chez les disciples musulmans de Plotin, alors qui ignorent le nom de Plotin, puisqu'ils le prennent pour Aristote, mais qui sont vraiment les continuateurs de sa pensée, donc d'une pensée qui est à la fois, qui a une exigence de rationalité véritable, mais dont la finalité est au-delà, effectivement, d'une compréhension rationnelle du monde des faits. La finalité, oui, c'est l'union mystique, c'est se rendre semblable au divin autant qu'il est possible.
Eh bien, Achkevari aura été platonicien jusqu'au bout,
oui,
puisqu'il nous
invite
à une réminiscence de dimension de la philosophie dont on peut, en le lisant, reprendre conscience et à partir de là, méditer sur le fait qu'il y aurait peut-être beaucoup plus dans la philosophie que chez les philosophes, en tout cas les philosophes les plus récents. Histoire de la sagesse et philosophie chiite, l'aimé des cœurs, de Kholpaldin Achkevari. C'est Mathieu Terrier qui est l'auteur de ce livre, l'auteur de cette traduction. C'est aux éditions du Cerf, c'est en 2016. Merci beaucoup Mathieu Terrier.
Merci Abdel Nourbidar.
Ensemble Al-Kindi, on est toujours dans les parfums ottomans et on écoute un morceau qui a pour titre Bashraf Zengir Husseini. Bashraf, un mot arabe, persan, qui signifie introduction. Donc c'est un prélude. Son livre Rupeldin Ashkevari cite beaucoup Platon. Hein, et c'est un Platon auquel on ne s'attend pas.
Hein, ah oui, ça c'est un Platon méconnu, voilà, comme hein, les autres
donc,
d'ailleurs.
Donc Mathieu Terrier est resté avec moi parce qu'on va s'interroger ensemble sur une petite phrase justement que Ashkevari attribue à Platon. Alors parmi les sentences, il y a une multitude de sentences toutes plus savoureuses les unes que les autres. Oui. Avant même celle qui va nous intéresser, je vous en cite une. Platon aurait dit... quand on lui demanda quel homme mérite le plus que l'on se fie à lui pour gouverner la cité, eh bien Platon a dit celui qui a gouverné son âme de belle manière. Voilà. Je dis ça parce qu'on est en 2016, on va bientôt avoir une élection présidentielle.
Voilà, se gouverner soi-même d'abord.
Voilà, se gouverner soi-même d'abord. Je ne sais pas si c'est au programme des uns ou des autres. on verra bien. Mais alors là, la citation attribuée à Platon qui a le plus retenu mon attention, que j'ai trouvé vraiment particulièrement... j'aurais presque envie de dire croustillante, mais c'est-à-dire elle est tellement ésotérique que je doute d'avoir quelque chose d'un peu intelligent à dire là-dessus. Sans tarder, la voici. L'être le plus envieux est la mouche. L'être le plus frugal est l'araignée. Ainsi, Dieu a fait de l'être le plus envieux la pitance de l'être le plus frugal. Gloire à lui, le subtil, l'informé. Bon. Eh ben, alors ça, Mathieu Terrier.
Voilà. Eh ben, c'est-à-dire que là, justement, l'envie, l'hypocrisie, l'avidité matérielle se trouve finalement anéantie et consommée et consumée par l'ascèse, la spiritualité et l'humilité. C'est finalement toute la leçon qu'Ashkevari fait à ses contemporains et c'est toute la leçon qu'il veut donner dans son Histoire de la sagesse. Mais je rappellerai d'ailleurs que c'est quand même un contemporain de Jean de La Fontaine et que
on est au XVIIe siècle.
Voilà, on est au XVIIe siècle. Le grand siècle chez nous. On a un contemporain iranien chiite de Jean de La Fontaine et de quelques philosophes illustres et qui effectivement joue aussi bien de la fable animalière que de la démonstration rationnelle.
Tout à fait. Et aussi, là encore, on parlait tout à l'heure de réminiscence, quelque chose de très grec, je dirais de très conforme ou fidèle à l'esprit des, que ce soit d'ailleurs des épicuriens ou des stoïciens, hein, puisque la mouche qui est la plus envieuse, qui se pose sur tout, hein, voilà, sur tout ce qui a l'air appétissant, eh bien, symbolise la multiplication des désirs qui
c'est
va
ça, voilà.
Mener l'homme à sa perte, tandis que l'araignée est frugale, c'est-à-dire qu'elle se contente.
Voilà, elle se contente d'elle-même, elle se contente de peu, elle est dans l'autarcie et l'ataraxie, on peut dire.
Et alors, elle se contente de peu et en même temps, elle l'est beaucoup, parce qu'il y a ce symbolisme de l'araignée qui fait surgir son univers de son propre abdomen.
Absolument, qui fait sa propre toile.
Qui crée son univers, qui crée son cosmos.
Oui, par une sorte d'effusion ou d'émanation, alors d'ailleurs dans un schème tout à fait néo-platonicien, quoi. On est dans l'effusion de sa propre substance, la descente des mondes à partir de la substance première. Donc effectivement, l'araignée pourrait symboliser, même au-delà de la sagesse philosophique, le processus de la création.
L'émanation de l'être divin.
L'émanation de l'être divin.
Et si Dieu était une
araignée. Pauvre monde à partir de l'être divin.
Merci beaucoup Mathieu Terrier.
Merci à vous Abdennour Bidar.
Un taksim, l'instrument est le tar, un instrument à cordes pincées, un luth à longs manches. Plaisir aujourd'hui dans Culture d'Islam de dialoguer avec Mathieu Terrier pour son Histoire de la sagesse et philosophie chiite, une traduction de L'aimé des cœurs de Kutbaldin Ashkevari, c'est aux éditions du CERF. Je remercie tous ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. Avec moi, Dominique Compétissa, pour la production de l'émission. À la réalisation, Alexandre Fougeron. Et à la technique, Jean-Richard Dufour. Dans quelques instants, on retrouve Louise Touré et sa rue des écoles. Thank you.